Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème : prison de solitude.
Notre Bible, on va prendre deux textes, si vous voulez bien, à méditer. Le premier, nous allons faire donc notre lecture dans le livre des Nombres. Première lecture, livre des Nombres. Au chapitre 10. Alors, ça se trouve au début de votre Bible, hein, d'accord ? Chapitre 10 et verset 29, un épisode de la vie des Hébreux à leur sortie d'Égypte. Alors, Nombre, chapitre 10, verset 29, Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, « Je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours, pour leur chercher un lieu de repos. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers ce passage sur lequel nous reviendrons. Et maintenant, nous allons faire une très, très courte lecture. C'est dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 28. Et les derniers mots de cet évangile. Matthieu, chapitre 28, la fin du verset 20, où Jésus dit ces paroles, elles demeurent et elles restent, eh bien, quelque chose qui nous rassure et qui tient et garde nos cœurs dans la paix. Et il dit ceci, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. On vient de réaliser que l'Évangile se referme sur une des plus grandes promesses faites aux hommes, que Dieu a fait aux hommes, parce qu'il leur promet sa présence, il leur assure de son assistance et de son intime proximité. On peut dire et expliquer les choses de cette manière, et cela chaque jour de la vie et jusqu'à la fin des temps. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle conclusion pour les hommes qui ont vécu du temps de Jésus alors qu'il allait les quitter, et pour tous les lecteurs de la Bible à travers les siècles. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Alors, par-delà notre environnement qui plaide l'absence de Dieu, parce que il me semble que... Beaucoup, des millions d'hommes pensent que Dieu est absent ou qu'il n'existe pas. Alors nous avons justement ces paroles qui sont inscrites en lettres de feu. Eh bien, pour tous ceux qui ont la foi, pour tous ceux qui se réclament finalement de quelque chose au fond de leur cœur, alors il n'y a finalement que la confiance. Il n'y a que la foi qui puisse nous assurer de la vérité de ce que Jésus nous dit. Et je le répète encore une troisième fois, je suis avec vous tous les jours. Nous ne sommes pas sans lui, puisqu'il nous le dit, puisqu'il nous l'affirme. Et nous pourrions dire que ce sera les derniers mots de son testament spirituel, puisque nous connaissons la vie de Jésus lorsqu'il a partagé, eh bien, notre humanité, lorsque l'Évangile nous le dépeint comme se livrant à la mort pour chacun d'entre nous. L'Évangile nous apporte aussi une nouvelle fracassante, révolutionnaire, puisqu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, et que là il va laisser ses dernières pensées, ses dernières volontés avant de monter au ciel à tous ceux qui font partie de ces enfants que l'on appelle l'Église, mais pas une Église de nom, une Église véritablement engagée, combattante, une Église d'espérance, une Église qui espère, et qui espère en quoi? En son retour. Et il nous dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à, si vous l'entendez comme ça, jusqu'à ce que je revienne, et je vous prendrai avec moi. C'est la vérité de cette parole quand Jésus nous affirme qu'il est tous les jours avec nous, donc jusqu'à la fin du monde. Dans le monde tel qu'il est, cette plainte s'élève, c'est une plainte qui rend témoignage d'un grand désespoir, un grand vide, où quelquefois nous entendons les gens nous dire, mais en quelque sorte, personne ne s'intéresse à moi. C'est vrai, personne, et il y a un monde immense de solitude. On connaît la solitude affective qui touche les cœurs. On parle de la solitude sociale, où tant de jeunes et de moins jeunes sont dans l'oisiveté. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à vivre. On parle de la solitude spirituelle, comme certains hommes de Dieu, d'ailleurs, dans la Bible, l'ont connu, ce vide par certains moments, et pas des moindres, je pense à Élie, par exemple, et puis à bien d'autres. Il y a aussi parfois la solitude conjugale. On peut être marié puis être seul. C'est vrai, ça peut arriver, cela, hein, se sentir vraiment seul, même en couple. La solitude familiale, hein, où chacun est un petit peu dispersé de son côté. La solitude qui touche nos relations, on l'appellera la solitude relationnelle, qui est due à la peur, à nos craintes, à nos complexes, à peut-être des sentiments d'infériorité qui nous met un petit peu en marge des autres. Et puis, il y a naturellement, et elle est très fréquente, c'est la solitude qui est générée par la maladie, par l'infirmité, par l'accident. Et il y a aussi d'autres solitudes qui est occasionnée, dont les causes, les raisons sont parfois la méchanceté des autres. Il faut le remarquer, hein, il faut le dire. L'accusation, la trahison et les réputations qui sont salies injustement et qui fait que les gens se sentent véritablement mis sur le bas-côté. Alors c'est vrai que souvent on entend ce cri, ce désespoir, mais personne ne s'intéresse à moi. Et c'est vrai que je voudrais quand même l'affirmer, dans ce sens, il est vraiment difficile d'être tout seul. C'est vrai, je pense que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de gens solitaires, beaucoup de gens qui connaissent cet état de choses. Parfois les gens disent, mais la solitude me tue, hein. Elle me tue, elle me détruit, elle me ruine. Alors, parfois aussi, les gens disent, parlez-moi parce que j'exige, j'ai écouté aux informations dernièrement, une personne âgée qui disait, interviewée par les journalistes, en disant « Mais moi, le moment que j'attends, c'est que quelqu'un frappe à la porte pour me parler. Peut-être le facteur, peut-être quelqu'un qui va me porter ceci et cela, mais au moins me parler. Pas rester dans ce silence qui est un silence qui détruit. Parlez-moi parce que j'existe. » Alors, c'est vrai que les paroles de Jésus prennent un sens tout à fait particulier. Et je crois que ce sont avant tout des appels au secours qui sont tout autour de nous, dans un monde qui est concentré sur énormément d'éléments et qui ne produit que des isolés et qui fait que le monde est un monde de désolation. Hein, des isolés, pour ne pas dire des désolés. Alors, l'homme a besoin de relations, il a besoin de communication, il a besoin de sentir une présence. Et dans Ajoutez cela le monde de technologie qui est le nôtre, où le progrès ne connaît aucune limite, soi-disant aucune limite, pour nous rapprocher les uns les autres. Nous voyons que toutes ces techniques, téléphonie, Internet et bien d'autres choses, des communications qui sont sur le plan mondial aujourd'hui, fait d'un monde où les gens sont encore beaucoup plus recroquevillés les uns sur les autres. Et ça, c'est terrible. C'est un mal. Et à ce moment-là, par ces moyens techniques, ces moyens artificiels, on s'aperçoit que mon lointain, celui qui est en Chine ou en Australie, devient en fraction d'une seconde. Parce que on va beaucoup plus vite peut-être d'aller à Sydney ou je ne sais quelle autre part que peut-être d'aller frapper à la porte de notre voisin qui habite sur le même palier que nous. En une fraction de seconde, alors il devient mon prochain. Ça, c'est curieux, hein. Alors qu'auprès de moi, mon voisin, c'est-à-dire mon proche, mon prochain, quelque part, est si loin qu'il demeure un parfait inconnu pour beaucoup, hein. Sinon, peut-être à l'exception du bonjour matinal quand on se croise. Et encore, faut-il qu'il soit prononcé. Donc, on voit dans quel contexte le monde est, mais avec les souffrances que cela peut générer à la ville ou à la campagne. Hein, les gens sont seuls. La solitude qui cause tant de soucis, tant de problèmes. On parle du grand âge où les gens, souvent, sont dans un grand isolement, dans des maisons qui sont appropriées, l'abandon des derniers jours pour avoir peut-être en quête de tendresse, le caractère des gens aussi peut-être peut être un facteur d'isolement. On a parlé les handicaps physiques ou mentaux, moraux, la pauvreté, le chômage, le deuil, la maladie, le célibat non choisi, tout cela, ce sont des choses qui sont invalidantes, la timidité également. Alors, nous pouvons parler certainement de générations de solitude, et Jésus l'avait certainement vu. Il savait déjà dans son temps, il le savait lorsqu'il était au milieu des hommes, mais il savait que aussi viendraient des temps où les hommes seraient de plus en plus seuls. Et on pourrait se dire qu'avec la démographie galopante, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus nombreux sur la Terre, 6 milliards et quelques dépassant tout cela, et on s'aperçoit que plus on est, plus l'espace se rétrécit, plus les gens sont seuls. C'est quelque chose d'assez paradoxal, tout cela. Si l'on parle de l'abrutissement de la vie, de la trépitation, le stress, les fatigues, les égoïsmes, l'amour de l'argent, cette sacrée petite fenêtre qu'on appelle la télévision, qui se résume à une formule, tais-toi et regarde, ça n'arrange pas forcément à la communication dans les familles et auprès des gens. Alors, pour faire face au malaise insupportable de la solitude, les hommes ont été quand même malgré tout ingénieux en inventant des palliatifs et des échappatoires pour fuir finalement la triste réalité de ce que l'on est bien seul. Et on a mis en place toutes sortes de choses. Mais voilà, aussi louables soient certains moyens que les hommes se sont donnés, il n'en est pas moins vrai que ces substituts, resteront toujours illusoires autant que l'on n'y inclura pas, je dis bien que l'on n'y inclura pas, la dimension spirituelle. Et là, nous revenons à la parole que Jésus nous a donnée. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que toutes ces choses que les hommes ont mis en place, sont quand même malgré tout des solutions en trempe-l'œil. Parce que si ça avait été la solution, si ça avait été la panacée, je crois que le monde serait différent aujourd'hui. Sur le plan, finalement, de la communication et des relations, de l'entraide, ce que nous appelons dans le langage chrétien la charité, l'amour fraternel, et puis le partage avec les uns et les autres. Donc, on peut dire qu'il y a là certainement des solutions, mais des solutions en trompe-l'œil, pour ne pas dire en trompe-l'âme. Parce que ce qui, au fond de nous-mêmes, a vraiment besoin d'une réponse, c'est notre âme et notre cœur. C'est cela. On peut avoir beaucoup de choses matériellement parlant. On peut avoir les moyens. On peut avoir des choses en technologie extraordinaires, comme on l'a vu il y a un instant. Mais ce qui est profondément malade dans l'intérieur des hommes, c'est son cœur, c'est le cœur et l'âme. Et Jésus a donné cette parole. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et notre appropriation de cette parole, elle se fait, vous le savez aussi bien que moi, uniquement si nous croyons cette parole. Ça change tout. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons besoin de prendre un abonnement ou un forfait, comme tous les moyens modernes dont nous parlons. Hein. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter avec des espèces sonnantes et trébuchantes, mais c'est une question morale. C'est une disposition de cœur, je crois ou je ne crois pas. Et des millions de gens ont fait cette expérience que, en se tournant vers la Bible, en croyant au message de la Bible, et de celui qui l'habite, de celui qui en est l'inspirateur, c'est-à-dire Dieu, Jésus, alors à ce moment-là, ça change les choses. Parce que cette parole, ces paroles, ont créé une véritable révolution auprès de tous les isolés, de tous les abandonnés, de tous les solitaires du monde. Parce que nous savions que nous n'étions pas seuls. Nous avons compris que nous n'étions pas seuls. Qu'il y avait quelqu'un qui nous accompagnait et qui pouvait nous donner infiniment plus que toutes ces techniques qui quelquefois marchent plus ou moins bien. Je suis bien placé cette semaine ou ces derniers jours pour en savoir quelque chose parce que chez moi, toute la technologie ne marche pas. Voilà. Je dois vous le dire, je me soulage parce que ça ne marche pas. J'ai fait installer tout un système et ça ne marche pas. Alors, je préfère vous parler directement comme cela, hein, n'est-ce pas? Et c'est bien ces rendez-vous, quoi qu'il en soit. Alors, en tous les cas, c'est un petit clin d'œil que je suis en train de faire, mais je pense que c'est pas ça ce qui rend les gens heureux. C'est bien d'avoir des communications, c'est bien d'avoir des relations par ces moyens, mais nous avons besoin d'autre chose. Savoir que cette communication, elle est horizontale, mais nous avons besoin d'avoir une communication qui est verticale. Et ça, ça change tout. Elle prend de la hauteur, notre communication. Elle va beaucoup plus loin que les satellites, croyez-moi. Parce qu'elle nous met en relation avec le cœur de Dieu, dans sa pensée, dans ses inspirations qui me sont nécessaires, dans cette sagesse que j'ai besoin et que lui-même peut m'inspirer, cette intelligence renouvelée, cette perspicacité ou ce discernement des choses qui m'environnent et dont j'ai besoin justement d'avoir finalement son conseil pour ne pas me tromper et marcher comme il convient de marcher. Et je sais que les communications qu'il va me donner, ce ne sont pas des spams pour ceux qui connaissent un peu le langage informatique. Eh bien, ce ne sont pas des virus, hein, c'est la vérité. Et cette vérité-là, j'ai besoin de l'entendre tous les jours. J'ai besoin de m'en nourrir de cette vérité parce qu'elle règle toute ma vie, que ce soit ma vie physique, ma vie morale, et ma vie spirituelle. Alors, nous avions parlé de trompe-l'œil, de solutions en trompe-l'œil. Ici-bas, les hommes ont tout fait pour faire oublier, justement, cette absence. Enfin, ce que les hommes appellent absence de Dieu. Et nous voyons que tout cela, eh bien, a un coût parce que rien n'est gratuit. Et vous savez que l'Évangile nous dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est ça justement l'avantage. Alors, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que tout se vend pour faire oublier les hommes. Quand on voit la frénésie de l'existence, le monde trépidant, les étourdissements, les compagnies d'intérêt ou occasionnelles qui sont sans lendemain, les soirées fugitives, ces clubs de rencontres, enfin je multiplie tout ce que nous savons, hein, et où l'on y rencontre parfois de la sympathie, de la bienveillance, de la compréhension et des attentions. Mais est-ce que c'est là où on peut découvrir l'amour vrai? Et quand Jésus nous dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est qu'il veut nous parler de son amour, et celui-ci, il est authentique. Ce n'est pas quelque chose de passager, ce n'est pas quelque chose de fugitif, ce n'est pas quelque chose qui va s'évaporer ou faner ou flétrir, mais c'est quelque chose qui demeure au fond de notre cœur, à la découverte de cet amour, parce que Jésus, eh bien, lui nous tiendra un langage à la fois de vérité et d'amour. Et être aimé simplement pour ce que l'on est, et non pas pour ce que l'on produit, non pas pour ce qu'on est capable, non pas pour ce que l'on peut donner par-delà les apparences, c'est bien finalement qu'une illusion. Non, c'est pour ce que l'on est vraiment. Alors, cette recherche d'amour, parce que c'est ça le fond, hein, la solitude, eh bien là, nous coupe de quelque chose. Et celui qui cherche à rompre sa solitude, à casser cette solitude, c'est qu'il cherche une autre dimension. Une dimension d'être compris, une dimension d'être accompagné, une dimension, eh bien, quelque part, finalement, en un mot, d'être aimé, de découvrir ce que c'est que l'amour. Vous savez que le livre des Cantiques, au chapitre 7, nous dit ceci. « Quand un homme, ou quand une femme, peu importe, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. » Donc, on est bien au clair que finalement, ce que Dieu nous propose, eh bien, ce n'est pas une affaire pécuniaire. Ce n'est pas une affaire, finalement, qui se monnaie. C'est tout simplement, eh bien, une autre dimension, et puis qui peut nous apporter ce don profondément ce que nous avons besoin. La solitude est au cœur de la foule. Elle est au cœur du monde. Je voudrais prendre une image. On est allé à un moment ou à un autre, jeune ou moins jeune. Mais vous savez qu'à la fête foraine, il y a une attraction, que vous avez peut-être déjà essayée, que l'on appelle le palais des glaces. Vous savez, hein, ces miroirs qui sont dans tous les sens, et vous, c'est un labyrinthe. Hein. On peut appeler ça comme ça, un labyrinthe. Et quand on rentre dans le jeu, eh bien on se bouscule, on se voit, hein, les uns les autres naturellement, et on se heurte, on se cherche, et tout y est transparent, mais jamais on ne se retrouve. C'est très rare. Hein, on voit bien les gens qui sont là, et ils sont très très près, hein, mais il y a quelque chose qui nous sépare. Hein. Les glaces séparent. Il y a une vitre, comme cela. Et comme il y a beaucoup de monde, eh bien, on a du mal à passer. Enfin bon, vous connaissez un peu le système. C'est une illusion de cache-cache, en quelque sorte. Oui, les gens sont tous regroupés dans un espace, mais il y a des vides dans tous les sens. Et la question que nous pouvons nous poser, quand on réfléchit un petit peu à ce que peut être le monde à l'image d'une fête foraine, d'une foire en quelque sorte, hein, où les gens déambulent dans tous les sens, mais comment faire fondre les glaces de l'isolement? Et c'est ça, j'ai pris cette image parce que bon, c'est un petit peu hein, une comparaison, mais comment faire fondre les glaces de l'isolement, ce qui nous sépare avec les autres? Il y a beaucoup de facteurs naturellement, hein, et tout n'est pas transparent là, hein, dans ce genre de réflexion, mais on se dit, mais où est la sortie? Où est la sortie de ce labyrinthe? Où est la sortie de cette solitude? Où est la sortie de ce monde qui est le mien et dans lequel j'aimerais bien finalement eh bien, aller vers l'autre, pouvoir toucher l'autre, pouvoir m'approcher de l'autre? Et pourtant Jésus nous dit, à la suite de cette simple image et illustration, vous savez que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, « Je suis la porte ». Je suis la porte. Il parlera de cette manière quand il invoquera cette parabole lorsqu'il donnera cette parabole du bon berger. Eh oui. Et il dira des choses formidables dans cette magnifique allégorie. Et il parlera, il dit, je suis la porte. Et c'est vrai. Parce que on sait très bien qu'il prolongera son image. Si quelqu'un entre par moi, il rentrera, il sortira, il trouvera des pâturages et il sera dans l'abondance. Et je ne sais pas, et je comprends mal en tous les cas comment le monde a pu, finalement, un monde qui se dit chrétien, un monde qui se dit christianisé, passer outre, finalement, ces paroles qui sont à la base même du christianisme, où nous voyons qu'il y a si peu de gens qui connaissent Jésus-Christ, qui connaissent la Bible, qui connaissent l'Évangile, qui connaissent, finalement, eh bien là, le message de Dieu, en quelque sorte. Et ce monde est en train d'errer dans ce labyrinthe de glace, ou glacé, comme vous voulez. Hein, et qui cherche la porte. Et pourtant, c'est évident. Quand Jésus nous dit également, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et s'il est le chemin, alors pourquoi nous le suivons pas? S'il est la vérité, pourquoi nous la croyons pas? Et s'il est la vie, pourquoi nous la voulons pas? Puisque les choses sont dites. Puisque les choses sont dites depuis 2000 ans et plus. Alors, on comprend que tout cela, eh bien, ça fait un monde qui est un monde malheureux. Et on va le voir d'ici quelques instants, cette relation horizontale que nous cherchons désespérément, elle a une solution. Il faut savoir aussi trouver la dimension verticale, parce que c'est elle qui nous éclaire sur ceux qui sont autour de nous, sur ceux qui cheminent avec nous, sur ceux qui partagent notre temps, notre génération, notre vie, notre existence, y compris l'intimité, dans notre intimité. Alors voilà, donc nous avons cette question autour de nous, hein, dans cette illustration. Quand nous lisons, par exemple, dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 13, écoutez ce qu'il nous est dit. Il nous est dit « maintenant Jésus-Christ ». Donc il s'agit de chrétiens qui ont fait une expérience, qui ont un jour rencontré Jésus, qui ont pu prendre ou qui ont pu faire pour eux-mêmes ces paroles « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et l'apôtre Paul dira ceci « maintenant Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés ». Pour différentes raisons, par notre ignorance, par l'endurcissement de notre cœur, par notre indifférence de Dieu, par tout simplement notre conception que Dieu soit été absent ou il n'existait pas, alors il dira, mais vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés. Quelqu'un nous a rapprochés. La grâce de Dieu nous a rapprochés les uns les autres. Le sacrifice de Jésus nous a rapprochés parce que nous le croyons. Alors vous avez été rapprochés par le sacrifice de Jésus-Christ, nous dit Paul. Il est notre paix. Et moi je dis que Jésus est celui qui donne la paix. Vous voyez, il y a toujours ça, hein, je vous laisse ma paix derrière moi. Hein. Ça, c'est, je crois que je voudrais que ça soit l'emblème du caractère même de cette Église. Et une Église en paix. Une Église qui procure la paix et qui donne la paix autour de soi. Mais c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas le pasteur. Hein. C'est écrit dans l'Évangile. Alors, il nous est dit, il est notre paix. Et comment se fait-il que le monde de relations, le monde relationnel, le monde où il y a tant de millions et 10 millions d'êtres ne sont pas en paix? Parce qu'il faut d'abord que la paix soit établie entre nous qui sommes en bas et lui qui est en haut. Ça s'appelle la réconciliation, ça s'appelle la repentance, ça s'appelle la conversion, non pas à une église mais à Jésus-Christ, à travers une nouvelle naissance. Alors à ce moment-là, la paix qui est en haut, qui règne en haut, descendra dans nos relations les uns avec les autres. Combien nous voyons de couples, de familles, d'enfants, combien nous voyons sur le plan social, sur le plan professionnel, combien il y a de disputes, combien il y a de querelles. Pourquoi la paix est-elle absente? Parce que finalement, eh bien, là, il manque une relation. Il manque quelque chose. Et quand les hommes auront compris ça, eh bien, le visage de notre monde changera. Les choses changeront. Mais n'attends pas que ce soit les autres qui changent. Il faut commencer par soi-même. Si je change, je serai aussi un élément pour amener les autres à changer. Et ils verront ce que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Mais n'attendons pas que ce soit les autres, ça commence par nous. Alors, il est notre paix qui est de deux. Il n'en a fait qu'un, il a renversé le mur de séparation et il nous a unis, il nous a réconciliés avec Dieu. C'est ça justement la solution. Quand Jésus nous dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde », Jésus donne une parole parfaite, une parole idéale en quelque sorte, comme toutes les paroles de l'Évangile. Et on pourrait dire que l'idéal n'est pas de ce monde parce que nous restons tellement fragiles, infirmes, tellement insaisissables. C'est bien cela. Alors, je crois qu'il y a véritablement une porte de sortie et je voudrais que ceux qui écoutent cette parole ce matin, eh bien, vous puissiez comprendre que la solitude que vous ressentez, que cette aspiration à véritablement autre chose, eh bien, il y a une réponse et il y a une solution. En raison même de ce que Jésus nous a dit. La vraie solitude s'explique parce que l'homme est séparé de son Créateur. Vous savez qu'à la création, Dieu a prononcé ce mot avant que même les choses se dégradent, avant même le chapitre 3 du livre de la Genèse, où il est question de la chute, mais avant. Quand Dieu a vu sa création, quand il a vu l'homme, quand il a vu tout ce qu'il avait fait, il nous a dit d'abord que c'était très bon. Il n'a pas dit que c'était parfait, il a dit que c'était très bon. Mais c'est vite devenu aussi mauvais, parfois même très mauvais. Mais il a quand même donné cette parole de satisfaction. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la volonté de Dieu, nous devons être persuadés que la solitude n'est pas dans le plan de Dieu. Ouais. Il n'a pas voulu que l'homme soit un îlot perdu là au milieu d'un océan où tous les horizons se confondent. Non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne soit pas seul. Et une des premières preuves que nous avons, c'est que quand Jésus a constitué son Église, il a rassemblé 12 hommes, les apôtres. Ensuite, il leur a dit « Allez partout le monde, enseignez ma parole et à pratiquer ce que je vous dis, baptisez-les, bien sûr, hein, faites-en des disciples. » Et puis, nous apercevons que depuis 2000 ans, il y a eu beaucoup de révolutions politiques et tout autre dans le monde, mais il y en a une qui a subsisté, c'est que depuis 2000 ans et plus, en tous les cas, ce christianisme dont nous parlons, ce christianisme authentique, évangélique, ce christianisme dont le chef, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas tout ce que voudrait, mais ce christianisme-là subsiste encore, malgré les persécutions, malgré les guerres de religion, malgré les bûchers, malgré les galères, malgré tout ce qui a été fait. La parole de Dieu subsiste éternellement, il y a toujours eu des hommes qui ont pris le relais pour la transmettre à d'autres. Alors, on appelle l'Église une famille aussi, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que nous avons un Père. Il est appelé aussi pour nous notre Père Céleste. Il nous a fait sujet d'un royaume qui s'appelle le royaume de Dieu. Et nous sommes les uns avec les autres. Et il n'y a rien de plus anormal, rien de plus insultant et même scandaleux quand une Église se divise. Ce n'est pas normal. C'est une injure au plan de Dieu en quelque sorte et à la volonté d'amour de Dieu de nous unir et de nous réunir les uns avec les autres. Et ça, je crois que nous devons nous en garder, que Dieu nous en préserve en tous les cas. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme isolé de Dieu, l'homme seul avec lui-même, isolé de ses semblables, l'existence transformée en un désert, même pour les plus entourés. C'est ce que nous affirmions tout à l'heure, on peut avoir une multitude de gens autour de nous et se sentir profondément seul. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, ces déserts affectifs dont nous avons évoqué l'existence, c'est terrible. Ouais, désert affectif. Et nos sociétés modernes font des millions de gens qui sont dans un désert affectif. Il faut dire que notre société est malade. Là où il y avait des unions, aujourd'hui nous trouvons des désunions. Là où il y avait finalement eh bien, des choix de vie à partager, c'est le mot divorce qui est prononcé. Et nous sommes toujours de plus en plus étonnés que de tout jeunes enfants maintenant connaissent ce mot. Bien sûr, c'est terrible. Quelle misère. Alors ça génère finalement beaucoup de problèmes et beaucoup de solitude en perspective. Solitude à tous les niveaux, au niveau des adultes et au niveau des enfants, et qui peut-être sera vécue encore beaucoup plus difficilement au niveau des enfants. Je recevais cette semaine, ou les jours passés, je recevais un mail d'une jeune fille qui me disait qu'elle était profondément seule, humainement parlant. Oui. Et pourtant, elle a un travail, elle a toutes sortes d'activités, elle a toutes sortes de choses qui... Mais elle était profondément seule. Ça, c'est quelque chose qui fait mal. Parce que on se dit, mais on peut avoir tout, mais s'il nous manque le principal, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette jeune fille connaît le Seigneur. Elle me dit, oui, je suis humainement très seule, je ressens ma solitude, mais j'ai le Seigneur avec moi. Voilà. J'ai le Seigneur avec moi et c'est lui qui est mon espérance, c'est lui qui me donne, finalement. Et les choses, finalement, trouveront leur solution parce que le Seigneur a un plan pour chacun, pour ceux qui prient, pour ceux qui ont foi en lui. Alors, pourquoi avoir relégué aux accessoires, si vous me permettez que je dise les choses ainsi, pourquoi avoir relégué aux accessoires Dieu, pourquoi avoir relégué Dieu aux accessoires de la vie? Toute la question est là, et on comprend la misère, on comprend eh bien, tous ces états dans lesquels les hommes vivent. La relation horizontale dont nous parlions tout à l'heure passe par la relation verticale. Ouais. Et c'est ce que nous avons découvert nous-mêmes lorsque nous nous sommes convertis. Nous avons découvert un monde, nous avons découvert quelque chose de formidable, autant que je puisse me souvenir de ma conversion. J'avais une vingtaine d'années. Eh bien, j'ai trouvé des amis. Plus que des amis, j'avais une famille, naturellement. J'avais un père et une mère, j'avais une sœur et puis des frères. Mais j'ai découvert qu'il y avait un autre monde qui était capable d'aimer, différemment, naturellement, des frères et des sœurs. Parce que, justement... Eh bien, Dieu m'avait ouvert d'autres possibilités, des possibilités nouvelles. Et ça passe par une relation verticale. C'est-à-dire, c'est s'approcher de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, on s'approche forcément des autres. Vous savez ce que nous dit, eh bien là, Jacques, au chapitre 4 et au verset 8, je fais seulement la citation. Il nous dit cette parole, donc, chapitre 4, verset 8, il dit ceci, que je retrouve, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ouais. Et plus nous sommes dans l'intimité avec notre Dieu, plus nous serons dans l'intimité aussi avec le Seigneur. Ouais. Et si nous disons que nous aimons le Seigneur et que nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs, alors nous sommes complètement en porte-à-faux et nous nous mentons nous-mêmes. C'est clair. Nous pouvons toujours nous donner l'illusion que nous sommes, oui, mais nous ne sommes pas. Parce que aimer le Seigneur, c'est aussi aimer les autres, avec leur tempérament, avec leur caractère, avec leurs défauts, quelquefois avec peut-être les petites éraflures qui peuvent arriver. Mais vous savez que Paul a trouvé le mot pour réconforter tout le monde. Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres » et Paul ajoutera « supportez-vous les uns les autres ». Ça va ? Supportez-vous les uns les autres, mais supportez-vous sans oublier de les aimer, naturellement. Et si on peut les supporter, c'est qu'on les supporte. Grâce à l'amour. C'est pas toujours évident, c'est vrai, mais il y a de grandes leçons à apprendre, quoi qu'il en soit. Alors, voilà ce qui nous est dit. Un jour, un homme malade a crié à Jésus son désespoir. Vous savez que cet homme, on le trouve, son récit, vous pourrez le lire, il est unique, il est simplement dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et autres, les versets 5 à 7. C'était un homme qui était paralysé depuis 38 ans, imaginez-vous. Paralysé depuis 38 ans, c'était quand même une petite affaire. quand on ne peut pas marcher. Et pourtant, il était dans un lieu qui s'appelait la piscine de Bethesda à Jérusalem. Il y avait des dizaines et des dizaines de malades autour de lui. Il n'était pas seul, mais il était profondément seul dans son cœur et dans son âme. C'était le paralytique, l'impotent, 38 ans de maladie. Et Jésus va finalement venir vers lui et il va lui poser une question. Une question assez saugrenue quand on sait que quelqu'un est malade depuis si longtemps et qu'on le voit malade, on le voit infirme, impotent. Jésus va lui poser cette question provocatrice, il va lui dire « Veux-tu être guéri ?» Bon, on ne poserait pas une question comme ça, bon, enfin je ne sais pas, mais on se dit quand on voit un pauvre malheureux, bah, évidemment qu'il veut être guéri, évidemment il ne va pas faire tout un discours pour savoir si véritablement il a quand même le désir d'être droit sur ses jambes. Et Jésus lui pose la question. Il va dire « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme va lui répondre simplement cette... Il va lui donner cette réponse, il va dire « Je n'ai personne pour m'emmener jusqu'auprès des eaux de la piscine où là, soi-disant, il y avait tout un mouvement de l'eau qui était, miraculeux. » Ouais, « Je n'ai personne. » Et pourtant, il y avait des autres malades. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des infirmes, il y avait des sourds, il y avait des muets, il y avait tout le monde. On pourrait dire que toute la population de Jérusalem, dans l'infortune, dans la maladie et dans l'invalidité, se trouvait ici. Il n'était pas seul, et pourtant il dira « Je n'ai personne ». Peut-être que quelqu'un ce matin dit « Voilà, j'ai tous mes problèmes, mais je n'ai personne ». Alors attendez, on va aller jusqu'à la fin. Hein. Vous allez voir que vous avez quelqu'un, et que vous n'êtes pas seul, quoi qu'il en soit. « Je n'ai personne ». Son impotence, sa paralysie de contact, de communication, d'entraide. Tout cela faisait que cet homme s'était renfermé sur lui-même. Et Jésus va faire l'électrochoc, le déclic, à travers cette parole. « Eh bien, mon ami, maintenant, prends ton lit et marche !» Il n'y a que Jésus qui pouvait dire cela, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et vous savez, avant de réveiller les jambes endolories ou les jambes ankylosées de cet homme, Jésus a réveillé son âme qui était endolorie et ankylosée. Et il a voulu provoquer un électrochoc. Il a voulu provoquer un choc électrique, on pourrait dire. C'est autre chose. Mais un choc dans sa conscience. Un homme qui s'était habitué à sa maladie. Un homme qui s'était habitué à son infirmité. Et qui disait, ben, je suis comme ça, je resterai toujours comme ça. Et Jésus avait pensé autrement. Qu'il était comme ça, mais il n'allait pas rester comme ça. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous-mêmes. Si nous voulons rester comme ça et que nous nous nourrissons d'idées négatives, nous resterons comme ça. Mais si nous entendons la parole de Dieu et que nous la prenons pour nous-mêmes, alors à ce moment-là, ça va changer. Vous y croyez? Vous êtes très attentif. Hein. Mais vous avez raison. Eh oui, ça va changer parce qu'il y a des paroles de Dieu qui sont susceptibles de révolutionner notre vie. Dans le psaume 107, il est dit ceci, « Et il envoya, en parlant de Dieu, et il envoya sa parole, et il est guéri. » Parce que c'est la parole de Dieu que je crois qui me guérit, et qui me relève, et qui me fait sortir de ma solitude. Solitude morale, solitude affective, solitude sentimentale, solitude aussi, eh bien, même physique, hein, on pourrait peut-être certainement dire cela. Jésus avait pensé que cet homme ne resterait pas sur place dans cette piscine de Bethesda et ressortirait en marchant, chose qu'il n'avait jamais fait, ou depuis très longtemps, ça faisait 38 ans donc, qu'il était dans cet état. Alors quand on reste sur place, on reste solitaire. Quand on s'approche de Jésus, eh bien, nous partageons à ce moment-là. Nous partageons et Dieu peut toujours nous envoyer des amis. Il peut toujours nous envoyer des gens qui nous parlent. Il peut toujours nous envoyer des gens qui seront des messagers avec une parole qui sera vraiment pour nous-mêmes, personnellement, pour ce jour-là, à cet instant-là, et qui va bouleverser notre existence. Je l'ai vécu. C'était une véritable révolution extraordinaire, magnifique. Et aujourd'hui, j'ai envie de le dire aux autres. Comme chacun d'entre vous qui avez fait cette expérience, vous avez envie de le dire aux autres quand on voit tant de solitaires et de malheureux autour de nous. Bien sûr. Alors, Jésus lui a dit trois mots, tout simplement, mais des mots qui ont été sa sortie de son enfermement, de sa prison et de sa captivité. « Veux-tu être guéri ?» En d'autres termes, on pourrait le transmettre ou le décliner sous une autre façon. « Veux-tu de moi ? Veux-tu de ma puissance ? Veux-tu de mon amour ? Et veux-tu de ma présence ?» Si nous voulons la présence de Jésus, il va nous la donner. Si nous voulons de sa puissance là où nous sommes impuissants, eh bien il va nous la donner. Si nous voulons tout simplement de son amour, il va nous envelopper de son amour, de sa grâce. Et cela, c'est pour aujourd'hui et pour toujours. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je crois que notre fameux paralysé de la piscine de Bethesda avait fait la découverte de sa vie. Et il n'était plus seul. Non. En tous les cas, il avait des jambes pour suivre Jésus et se mettre certainement au nombre des nouveaux disciples qui suivaient le Maître, pour pouvoir ensuite devenir des témoins, un témoin, un ambassadeur de ce royaume, le royaume de la foi. Et vous savez pourquoi ? Parce que, enfin, après tant d'années d'isolement, quelqu'un, enfin, s'était intéressé à lui. Oui, quelqu'un s'était intéressé à lui. Et personne ne peut dire, même au milieu de nous, que Dieu ne s'intéresse pas à vous. C'est que vous ne le savez pas. C'est que vous ne le comprenez pas, mais Dieu s'intéresse à tous les hommes, et même les plus bas tombés. On le voit à la croix du calvaire avec celui qui se convertit in extremis. Eh oui, jusqu'au dernier moment. Mais ça, il faut le croire, tout simplement. Alors il n'était plus seul. Et je crois que notre paralysé qui s'est mis à marcher devait passer ensuite son temps à faire connaître aux autres son plus grand ami. Et son plus grand ami, c'était Jésus, tout simplement. Le verset 15 de ce texte que nous n'avons pas lu nous dit ceci. « Et cet homme s'en alla, il s'en alla sur ses jambes puisqu'il était guéri, et il annonçait que c'était Jésus qui l'avait guéri. » Quand on a fait une expérience comme ça, on ne va pas le garder pour nous-mêmes. On ne va pas le garder pour notre solitude. On va le donner à tous ceux qui sont dans la solitude. On va aller vers ceux qui sont dans l'isolement pour qu'ils en sortent à travers cette bonne nouvelle, tout simplement. Alors, je vais bientôt terminer. Pourquoi attendre ? Pourquoi attendre, enfin, que l'impossible absence ne devienne nos délices de sa présence ? Vous avez remarqué quelquefois, quand on n'est pas bien, quand on est mal dans sa peau, quand on est mal dans sa tête, quand on souffre, on sait qu'il y a probablement quelque part quelqu'un qui peut nous aider. Mais on finit par trouver une certaine complaisance. Et tout, on trouve toujours des excuses. Ben, je ne veux pas le déranger, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie de s'en sortir, mais on n'a pas le courage ou la force, l'énergie pour mettre en marche cette démarche. Et bien souvent, il y a un océan de souffrance autour de nous. Les gens savent que l'Évangile existe, que Jésus-Christ existe, mais ils n'ont pas le starter, on pourrait dire, pour faire les choses. Et je crois que c'est ça ce qu'il nous manque. Et nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous donne cet allumage. Excusez-moi, hein, ce n'est pas un beau mot, hein, ce que je suis en train de prendre, mais ce qui va nous permettre finalement d'aller un petit peu plus loin. Et je crois que nous nous résignons dans une situation médiocre, inférieure, alors que nous savons que le supérieur existe. Qu'est-ce que vous voulez ? Je prends une idée saugrenue, mais si je vous offre, moi je ne sais pas, moi, un verre d'eau et que je vous offre du château Ekem, qu'est-ce que vous allez choisir, pour ceux qui connaissent ? Bon, si vous voulez vous contenter du vitel, alors allez-y. Avec modération, pour le vitel. Alors donc, nous nous contentons souvent, nous nous disons, ah oui, mais il est absent, je suis tout seul, etc. Alors qu'il y a des délices de sa présence. Vous savez ce que nous dit le psaume 37, si ma mémoire est fidèle, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Vous savez que Jésus l'avait bien compris quand il a changé l'eau en vin. Hein? Ah oui, l'eau, l'insipide, l'ordinaire, il l'a changé en vin, qui était véritablement un vin qui était des meilleurs et qui était du supérieur. Eh bien, Dieu ne veut pas que nous ayons une vie inférieure, mais il veut que nous ayons une vie supérieure. Et ça, c'est formidable. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vrai. Hein? C'est vrai, on en a fait l'expérience. Et Dieu ne dit-il pas à tous les isolés de la terre à travers la personne de Christ ou à travers sa parole ? Dans Ésaïe, chapitre 50 et au verset 2, « Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne ?» C'est Dieu qui parle. « Je suis venu vers vous, je suis venu, mais pourquoi n'y a-t-il personne ?»« J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ?» Qui a cru à la parole qui était annoncée, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Qui a cru à ce qui était annoncé ? Qui a vu et qui a reconnu le bras de l'Éternel dans toutes les choses que Dieu est encore capable de faire ? Pour les souffrants, pour les fracassés de la vie, pour les isolés, pour tous ceux qui traversent le désert, désert physique, désert moral ou désert spirituel. Ouais, j'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Alors, pourquoi restez-vous de votre côté? Pourquoi restez-vous à l'écart? Ouais. Parce que vous ne savez pas? Eh bien, vous savez maintenant qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde ». On ne peut pas dire autrement. Pourquoi restons-nous à l'écart? Pourquoi nous mettons-nous dans une position où nous nous sentons peut-être indignes, où nous nous sentons peut-être sales, où nous nous sentons peut-être avec une vie qui n'est pas, selon notre idée, en accord avec Dieu? Alors là, le problème est réglé tout de suite. C'est que Jésus, eh bien, finalement, nous prend et c'est lui qui nous transforme. Et n'attendez pas de compter sur vos mérites, sur vos qualités d'homme, de ceci et cela, de vos prérogatives que vous pourriez avoir. Le Seigneur nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors, de ce côté-là, c'est pas votre problème. Venez et recevez, tout simplement. Acceptez l'invitation du Seigneur, tout simplement. Et Dieu n'invite-t-il pas tout simplement à croire à ses promesses? Je cite encore, parce que le livre d'Ésaïe a des textes formidables. Ésaïe 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose sur le point d'arriver. » Et moi, je crois qu'au fond de nos vies, il y a toujours des choses qui sont sur le point d'arriver, dans la mesure où nous ouvrons notre cœur. « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu veut ouvrir un chemin dans notre désert et il veut ouvrir finalement des fleuves dans notre solitude. Et vous verrez que vous ne serez plus jamais seul. Jésus a dit souvent, « Viens et suis-moi. » Jésus a dit cela, très souvent aux hommes. « Viens, mais tu restes à distance, tu restes dans ton coin. » Non, « Viens et suis-moi. » Parce que nous avons besoin vraiment de cette parole pour savoir. Le point de contact, entrer en relation avec ses frères passe souvent par une décision de notre part quand nous sommes appelés, tout simplement. Faut-il le vouloir? Faut-il écouter? Et faut-il l'accepter, simplement? Je termine par le premier livre que nous avons lu dans Nombre, mais je pars faire un commentaire, n'ayez pas peur. Il nous est dit, c'est Moïse qui dit à un homme qui est un proche, c'est son beau-père. Et ce n'est pas un Israélite. Moïse en est un, mais son beau-père n'en est pas un. Il lui dit, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. » Et vous savez que nous sommes tous les jours en partance vers le lieu que Dieu nous a promis. Ouais. Tous les uns et les autres, nous sommes en partance, nous sommes en marche. Nous marchons vers ce beau pays, là-haut. Vous connaissez le cantique, on le chante. Ça, c'est notre espérance. Nous savons que finalement, il y a quelque chose de meilleur que tout ce que nous pouvons connaître est de bon, et nous ne sommes pas là pour décrier finalement eh bien, la bénédiction et les grâces que Dieu nous a données dans notre vie naturelle, bien entendu. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons une perspective, et notre perspective, eh bien, elle n'est pas vers le bas, vers le haut. Et Moïse le dira, mais nous partons pour le lieu que Dieu nous a promis de nous donner, et il dira ceci, viens avec nous, nous te ferons du bien. Et je crois que ça, c'est vraiment, nous pourrions dire, la devise de l'Évangile. Viens avec nous. Suis Jésus, apporte ta vie, toute ta misère, parce que nous savons que à ce moment-là, eh bien, Dieu et nous te ferons du bien. Parce qu'on se fait du bien ensemble, on ne se fait pas du mal. On se fait du bien, nous te ferons du bien car l'Éternel nous a promis de faire du bien à Israël. Moi, je crois que la bénédiction de Dieu est sur ceux et celles qui se rassemblent au nom de Jésus. Nous nous sommes rassemblés ce matin, non pas parce que nous sommes un club, nous sommes un syndicat ou que nous sommes je ne sais quoi ou d'autres, une association, nous en sommes quand même. Mais ce n'est pas sur le plan humain qui nous rassemble, c'est parce que nous avons tous les uns et les autres fait une expérience d'authenticité, de communion et de relation avec le Seigneur. Et tout cela a été enveloppé d'une communion que l'on appelle l'amour fraternel. L'amour pour Dieu et l'amour fraternel. Et moi, je crois que là, eh bien, là où des hommes et des femmes se rassemblent, au nom de Jésus-Christ, il y a une bénédiction qui découle sur eux. Qu'il est beau de voir des frères s'assembler ensemble. Vous connaissez le psaume et vous connaissez le cantique. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et sa bénédiction pour l'éternité. Et ça, il faut le croire. Et nous ne sommes plus seuls à ce moment-là. Et nous devrions travailler davantage dans notre communion fraternelle, peut-être pour prendre des nouvelles de nos frères et nos sœurs, qui quelquefois sont malades, un petit coup de fil, une petite visite, pourquoi pas, une petite carte. Ça peut être aussi une interpellation pour l'Église, de faire un petit peu davantage dans ce sens, d'être vigilant, d'être en quelque sorte véritablement dans cette identité d'une même famille pour se faire du bien les uns et les autres. Je sais qu'il y en a qui le font et je vous encourage à continuer. Mais peut-être que ceux qui ne l'ont pas fait, mais ce n'est pas pour apporter des nouvelles négatives à celui qui est malade. Hein. Du genre, vous savez, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Là, ça vous réconforte quelqu'un. Mais de dire, mais on va prier ensemble. L'Église va prier et nous allons nous faire du bien les uns et les autres. Vous lui apportez une bonne nouvelle. Et ça sera mieux peut-être qu'un bouquet de fleurs. Parce que ça sera les fleurs du ciel. Ouais. Alors, il a promis de nous faire du bien à Israël. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Eh oui, parce qu'on partage. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'individualisme, on ne fait pas cavalier seul, mais on partage les choses ensemble. Alors, l'Éternel nous fera du bien et il nous conduira dans cette marche pour nous faire trouver le lieu de repos. Hein, c'est dans la suite, hein, j'ai paraphrasé un peu, mais il nous fera trouver le lieu de repos, ce que nous avons besoin. C'est d'être en repos, d'être en paix. Et vous savez, je pense que quand on est dans une bonne communion, dans une bonne relation, dans une bonne communication, en haut et puis en bas, eh bien, on est heureux de pouvoir avoir des frères et des sœurs, avoir des hommes et des femmes autour de nous, où nous connaissons la paix et le repos de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Et nous allons prier quelques instants, simplement. Je demandais à Henri, si tu veux bien élever ta voix, en toute simplicité, pour demander à Dieu qu'il nous fasse du bien ce matin et que Dieu soit avec vous, qu'il vous donne le repos qu'il a promis. Merci.